philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 3 juin 1999.
Père, pourquoi, dans la recherche philosophique, métaphysique philosophique, sur la personne, ne parle-t-on pas de la dimension politique? Est-ce dans la dimension prudentielle qu'est appliqué cet aspect politique? Oui. Il n'y a pas de principe propre en politique. Il y a le bien commun, mais le bien commun, c'est quelque chose qu'on fait. Et quand on critique le bien commun, ordinairement, c'est ceux qui ne font rien. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Ceux qui sont très engagés dans une communauté, ils savent ce que c'est que le bien commun. Et ils voient combien ceux qui travaillent le moins pour le bien commun sont les plus critiques. Quand on est engagé dans une communauté, qu'on fait ce qu'on peut, on essaie de faire le mieux possible. Le spectateur, oui. C'est la fable de La Fontaine, n'est-ce pas? C'est toujours celui qui est un petit peu comme... qui accompagne, mais n'est pas engagé. Il est là à côté, il n'est pas engagé. Et qui voit de l'extérieur. Alors, il critique. Ils ne sont pas engagés dans le bien commun. Le bien commun, on le fait. Chaque citoyen est responsable du bien commun. Et il le fait. C'est dans la coopération que le bien commun se fait. Alors, si on coopère vraiment, on est engagé. On s'y donne à fond. Et on voit les difficultés. Et on voit que c'est... ça se fait, ça se refait, ça se défait, ça se refait. C'est comme ça le bien commun. Surtout quand ce bien commun est d'ordre économique. Là, il y a les inflations, en plus de ça. Au sens strict, l'aspect politique intervient au point de vue de la personne humaine par le point de vue de la prudence. Il y a une prudence politique. Si je n'en ai pas parlé, c'est que j'ai pris le point de vue politique, le point de vue de la personne humaine, dans sa raison propre de personne humaine. Or, quelqu'un qui n'est pas engagé dans la politique, vous, est-ce que ça vous retire quelque chose de votre personnalité? Je voudrais bien le savoir. Vous comprenez que vous n'avez pas à vous engager, vous présenter aux élections municipales. Vous avez fait une découverte, vous allez trouver ça chez le père maître, chez le père prieur. Il faut à tout prix que je me présente ces élections. Parce que vraiment, la commune est très mal gouvernée, ça ne va pas du tout. Et je crois que je dois me présenter. Est-ce que vous acceptez? Père prieur, le père maître dirait non. Peut-être quand vous aurez 45 ans, on verra à ce moment-là. Ou si vous avez 45 ans, non, faites votre noviciat maintenant. Vous êtes coupé de ça. La dimension politique implique une dimension personnelle par la prudence personnelle. Il n'y a pas de prudence politique sans prudence personnelle. Donc, vous voyez, il y a un mode particulier, on pourra le voir du reste. Mais pas plus. Il n'y a pas un élément de structure. Ça, je ne crois pas du tout. Pour qu'il y ait une dimension personnelle au point de vue politique, il faudrait que le point de vue politique développe un principe propre de l'être et de la personne humaine. Dimension réelle, profonde, importante, essentielle, mais c'est le mode personnel de la prudence qui s'étend selon un mode communautaire, politique. Alors, continuons ce que nous avions commencé de faire, et je crois que c'est important si on veut saisir le reste. je vous disais que la septième dimension de la prudence, de la personne, c'est la personne religieuse. La découverte de l'existence de Dieu comme Père qui m'appelle à avoir le même héritage que lui et à vivre éternellement avec lui dans la contemplation, qui fait que dès cette terre, la dimension religieuse va apporter ce souci d'une dimension contemplative, une dimension de sagesse. La sagesse apparaît avec l'aspect religieux. Et ça, c'est très net dans toute l'histoire de la philosophie. Dès que le point de vue religieux disparaît, l'aspect sapientiel disparaît au point de vue philosophique. On n'en parle plus. On ne parle plus de toute la découverte de Dieu. En Sorbonne, on voit historiquement, mais aucun souci de former des personnes. C'est terrible, hein, parce que la philosophie, elle est faite pour ça. Former des personnes. Et former des personnes qui comprennent ce que c'est que les dimensions de la personne humaine et qui comprennent comment la dimension première pour l'homme, c'est la dimension religieuse, découverte de l'existence de Dieu. Et avec cette découverte de l'existence de Dieu, découvrir notre possibilité de contemplation dans une théologie naturelle. Contempler Dieu, contempler l'être premier. Une contemplation acquise, mais une vraie contemplation. Dieu, on ne peut que le contempler. Vous ne pouvez pas analyser Dieu. Vous n'avez pas de concept de Dieu. Vous ne pouvez pas l'analyser. Vous le découvrez par la finalité. Bon. Uniquement cela, je voudrais que pour tous, ce soit une évidence. Ce ne soit pas quelque chose d'appris que vous recevez. Je voudrais que ce soit quelque chose que vous découvriez vous-même, voyez, au terme de cette recherche de la personne humaine, découvrir cette septième dimension, adorer et contempler. Adoration et contemplation acquise vont de pair. Si vous n'adorez plus, vous ne contemplerez plus au niveau de la contemplation acquise. Impossible. La gardienne de la contemplation, c'est l'adoration. Et par le fait même, c'est l'adoration qui doit nous donner cette soif de contemplation. Si vous n'avez pas la soif de contempler, c'est parce que vous n'adorez plus. Loyalement, je suis persuadé, j'en suis absolument sûr, que tant, loyalement, on est obligé de l'avouer. On ne l'avoue pas. On croit que la contemplation peut très bien vivre sans adoration. Impossible pour une contemplation acquise. Autre chose pour la contemplation infuse. Là, on n'en parle pas, on est en philosophie. Cette contemplation philosophique est rare. Elle est par moments. Elle est très fragile. Et elle exige un certain milieu. Je crois que actuellement, vu ce qu'est le monde et la communauté humaine, cette contemplation philosophique ne peut exister que dans une vie retirée, solitaire ou religieuse. Je crois. Je ne vois pas comment elle peut exister. Oui. Et c'est ça qui est si difficile d'enseigner dans une université d'État une philosophie, une métaphysique qui aboutit à la contemplation. parce qu'on enseigne quelque chose d'irréalisable. C'est tellement rare, la vraie contemplation philosophique qui aboutit à la sagesse, et qui atteint la sagesse, et qui fait que lorsque toute la philosophie prend une modalité nouvelle, parce qu'elle se fait dans ce climat contemplatif. Dieu, je ne peux que le contempler. Je ne peux pas l'analyser. L'analyse s'arrête à la découverte de Dieu. La science s'arrête à la découverte de Dieu. S'arrête, c'est-à-dire ne pénètre pas dedans. Les portes ne s'ouvrent pas. Le savant ne sait pas, en tant que savant, ne sait pas du tout ce que c'est que la contemplation. Même souvent, la contemplation l'irrite. Parce que c'est un domaine qui lui échappe, qu'il n'atteint pas. Parce que le savant, il est dans la recherche, il est dans l'analyse, il est dans l'induction. Et il essaie de creuser de plus en plus dans cette recherche. Or, Dieu est au-delà de la recherche. Toute recherche cesse quand vous découvrez Dieu et vous le contemplez et vous l'aimez et vous le priez et vous l'adorez. Oui, ça, bon, ça on peut en avoir l'évidence après un cours de philosophie, un cours sur la personne, on peut en avoir l'évidence. Et de comprendre que le propre du sage, c'est d'avoir le sens de Dieu, le sens de l'être premier, créateur et père. Donc c'est lié à la découverte de la paternité. Vous ne pouvez pas être vraiment un sage si vous n'avez pas fait cette découverte de la paternité de Dieu. Sur votre intelligence, sur votre vie spirituelle. Et ça, je crois que c'est capital pour nous. Et pas seulement, hein, je dis bien, le dire oui, c'est comme ça, hein, historiquement. Très bien. Mais historiquement, c'est pas philosophiquement. Historiquement, ça veut dire selon les faits, selon les documents, selon les écrits. Je peux dire qu'Aristote est un contemplatif, mais pas plus. Quelle était la contemplation d'Aristote? Si vous ne la vivez pas, vous ne pouvez pas en parler. Et c'est ça ce qui fait que Aristote est si difficile à comprendre pour des professeurs de Sorbonne. Parce qu'au fond, ils saisissent l'aspect d'analyse, l'aspect scientifique qui, pour la découverte de la philosophie, est un aspect matériel. L'aspect formel de la philosophie, c'est la contemplation de l'être premier. Et qui fait que le philosophe devient un sage. Et non plus uniquement un savant. Il n'y a pas de sagesse historique. Ça n'existe pas. Il y a des faits. L'historien est devant des faits. Et il essaie de relier ces faits. Donc, c'est une méthode archéologique. Je vois un fait qui commande d'autres faits. La Révolution française est un fait. Vous pouvez voir historiquement les conséquences. Conséquences tout à fait différentes sur l'homme laïque, sur l'homme religieux, sur celui qui a fait profession perpétuelle d'être consacré à Dieu, sur la famille, et ainsi de suite. Mais on voit les conséquences. Mais voir les conséquences, ce n'est pas un esprit de sagesse. Un esprit historique. Je vois ses conséquences. Les liens entre un fait historique et les conséquences ne m'apprennent pas sur les liens de causalité. Sont-ils liens de nécessité? Si cela n'avait pas eu lieu, si la Révolution française n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas les dépouilles de Cluny. Et ainsi de suite, des choses comme ça. De fait, quelle est la causalité? C'est très complexe. La première causalité qu'on voit quand on voit de fait, c'est la causalité matérielle. Mais la causalité matérielle n'est jamais toute seule. Elle est toujours liée à d'autres causalités. Donc, il y a là quelque chose de très important pour nous à saisir. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Je vais, à partir de là, saisir les autres personnes humaines qui n'impliquent en elles-mêmes que les six dimensions. Ces six dimensions pourraient être prises dans un aspect négatif, il n'y a pas un septième. Donc, s'il n'y a pas la septième, est-ce que je peux encore parler d'une personne humaine? Oui. Problème important et difficile, délicat. Il faut être net là-dessus. Si il n'y a pas la septième dimension, parce que je demeure en recherche, donc, rien n'est rejeté, tout reste ouvert à la recherche. S'il n'y a pas cette fermeture nette, en disant « la septième dimension n'existe pas », c'est une erreur. L'attitude laïque, constante, en France. La septième dimension n'est pas naturelle. Elle n'est pas humaine. Elle ne fait pas partie de la structure de la personne humaine. Alors, s'il y a ce rejet systématique de la septième dimension, de la dimension religieuse, de l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu, je crois que s'il n'y a pas ce rejet, c'est donc possibilité qu'il y a une septième dimension. Il peut y avoir une vraie personne humaine qui se construit sur ces six dimensions en attente de la septième. Mais sans dire qu'on est en attente de la septième, parce que tant qu'on ne l'a pas découvert, on recherche peut-être. Et il est une recherche. Je ne peux pas dire que ça existe. C'est possible. Alors, c'est dans cette perspective-là que je cherche ces diverses dimensions. Comprenez bien. C'est pour ça que j'ai voulu expliciter la septième, pour bien vous faire comprendre que c'est dans la septième que je comprends l'aspect personnel ultime de l'homme. Mais je ne l'ai peut-être pas nécessairement atteint. Mais j'espère pouvoir l'atteindre. Je regarde donc dans ces six dimensions, qu'est-ce qui apparaît en premier lieu? Il apparaît en premier lieu la personnalité du Père et la personnalité de la Mère. Et là, il y a une distinction entre les deux. Et je crois que après la dimension sapientielle de la contemplation de Dieu, c'est celle qui vient immédiatement après. C'est intéressant du reste de voir que c'est la paternité prise au grand sens du mot. C'est-à-dire comprendre la responsabilité qu'on a de mettre au monde, être cause principale, essentielle, de la mise au monde d'un être nouveau dont je suis responsable. Cette réalisation se fera avec le concours de quelqu'un d'autre qui acceptera la même responsabilité. On est tous les deux responsables. Et on est noués dans cette responsabilité-là. On a la même, le même cœur, la même intelligence de notre responsabilité. Tant qu'il n'y a pas cela, il n'y a pas paternité ni maternité. Alors cet enfant est arrivé, on ne sait pas trop comment. On le sait très bien, mais on ne sait pas trop comment. Il n'est pas, il n'y a pas eu l'intention d'être père et d'être mère. Et même on a tout fait pour que ce ne soit pas comme ça. On n'ose pas le dire. On a tout fait. Alors, parce qu'on a tout fait pour que ce ne soit pas comme ça, c'est accidentel. Ah, il est arrivé. Alors, il faut bien l'accepter. C'est pas ça, la paternité. Ouais, ça, c'est un acte manqué. Donc, il n'est pas volontaire. Je crois que c'est trop grave pour accepter de dire cela. L'acceptation de la paternité et de la maternité est l'acte prudentiel le plus grand qui soit pour un homme et pour une femme. C'est leur vie, toute leur vie qui s'engage, s'ils en sont conscients. Parce que ce n'est pas seulement avoir, mettre au monde un enfant, c'est déjà très grand. Mais il faut en avoir la responsabilité de ce tout petit. De l'éduquer. Et l'éducation joue un rôle vis-à-vis de la relation de l'enfant et du père plus important que l'aspect physiologique et biologique. Au dire de ceux qui ont étudié de très près la question. Et je crois que c'est vrai. Parce que c'est l'aspect du choix volontaire et libre qui se maintient et qui s'exprime. Ce choix volontaire et libre est en acte pour la procréation. Mais il demeure en acte pour l'éducation de cet enfant. Et je vous rappelle, là c'est une expérience que les psychologues ont fait. Je vous ai déjà cité ce petit exemple. En Israël, les kibbutz religieux, la manière dont ils ont été conçus au point de départ, la manière dont 10 ans après ou 15 ans après, je ne sais plus, quelque chose comme ça, ils ont été modifiés. Et c'est le rôle de la mère et du père qu'on a vu comme capital pour le développement normal de l'enfant, capable d'éveiller son intelligence, d'éveiller son cœur. On avait au point de départ écarté l'influence immédiate de la mère et du père et mesuré cette influence. Vous voyez, l'influence du père et de la mère ne se mesure pas de l'extérieur. La communauté humaine doit s'incliner devant ça et elle ne mesure pas cette influence. Parce que cette influence est plus profonde que la communauté. Et elle est antérieure à la communauté. elle est radicale par rapport à la communauté. Et donc, ce n'est pas la communauté qui doit la mesurer. La communauté, en la mesurant, fait une usurpation à l'égard du droit du père et de la mère, à l'égard de leur enfant. Et donc, elle se met dans une situation fausse. Oui, ça aussi, c'est capital de comprendre ça, dans le monde d'aujourd'hui. Et je crois qu'on peut tous le comprendre. Il faut autant que possible le comprendre de nous-mêmes à partir d'une expérience. Pas seulement en le regardant d'une façon négative dans les erreurs qui ont pu être commises, c'est intéressant du reste, mais d'une façon positive, c'est-à-dire pour nous-mêmes et pour la connaissance que nous avons d'autres qui n'ont pas eu des parents comme ça. Il y a quelque chose qui manque et qui manquera tout le temps parce qu'on ne pourra pas le rattraper. On ne peut pas rattraper les premières années. Les trois premières années, ça ne se rattrape pas. Et par le fait même, il ne faut pas chercher à le rattraper. Je vais me venger. Hein? Non, ça ne sert à rien, vous ne les rattraperez pas. Alors, il vaut mieux comprendre, c'est vrai, je vais tout faire pour que, de fait, je les rattrape. Et je ne rattraperai pas, mais je vais tout faire pour rattraper ce que je peux rattraper. C'est ce qu'on doit faire. Alors, regardons maintenant ce qu'est la paternité. Et comment la paternité nous met en présence d'un type de personne unique. Et ça, c'est très, très important. Je vous l'ai dit, quand vous voyez des marxistes, convaincus et qui sont dans l'idéologie marxiste, donc des marxistes intelligents si vous voulez, pas des moutons, pas des brebis galeuses, mais des marxistes intelligents qui ont réfléchi, interrogez-leur tout de suite sur leur vie de famille. C'est la grande manière de les ébranler. Ne cherchez pas à dialoguer avec eux dans une dialectique plus savante. Non, non. Touchez quelque chose qui est réel dans leur vie et qui ne peut pas être assimilé par le marxisme. C'est leur vie de père. S'ils sont pères. C'est même très important pour nous de voir que toutes les philosophies qui ne peuvent pas expliquer la paternité, la maternité, sont des philosophies où l'anthropologie reste boiteuse. L'anthropologie n'atteint pas ce moment crucial pour l'anthropologie, ce nœud si important pour la vie humaine, être père, être mère. Et une anthropologie qui n'explique pas cela, pour moi, est une anthropologie philosophique qui a raté, qui a manqué son but. L'anthropologie est finalisée en premier lieu par la paternité et la maternité. En premier lieu. Et tous ces instituts qui se font sur le point de vue du sacrement de mariage aujourd'hui, c'est l'Église qui l'a demandé, devraient toutes commencer par cela, de montrer l'anthropologie philosophique du père et de la mère, qui se fondent sur cette personnalité propre du père, sur cette personnalité propre de la mère. Alors, je touche le nœud. La plus grande responsabilité qu'on peut avoir au point de vue humain, c'est à l'égard de la naissance d'un enfant. C'est la plus grande responsabilité humaine qu'on peut avoir. Et qui nous, il faut bien le voir, et qui nous, la personne humaine du Père. C'est intéressant de voir ça. Parce que dans la vie religieuse, étant donné l'esprit de virginité, l'Église demande, c'est l'Église qui le demande, c'est pas un homme, c'est pas le pape, c'est Jésus. Il y a un dépassement de cela, qui n'est pas du tout purement négatif, qui est positif. Il y a une super paternité, une super maternité. Il y a un dépassement. S'il se fait d'une façon purement négative, ce dépassement peut se faire d'une façon purement négative chez les commençants. J'ai sacrifié la paternité, j'ai offert ma paternité, j'ai offert ma maternité à Dieu. J'ai fait ça dans un élan de générosité quand j'avais 18 ans, quand j'avais 19 ans, 20 ans. Mais à 30 ans, ça revient. Est-ce que c'était bien fait? Mais quand c'est purement négatif, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. C'est le propre, justement, de la privation. Il aurait pu se faire, il ne s'est pas fait. S'il n'y a pas eu quelque chose de plus grand qui s'est développé à la place, il y aura toujours un manque. Et qui aura la répercussion sur la personnalité. Ce sont des personnalités qui auront beaucoup de peine à se nouer, à se développer. Ça restera de grands gosses. Ce qu'on dit, terme péjoratif, hein, de vieux garçons, de vieilles filles. Il n'y a pas le père, il n'y a pas la mère. Et comme c'est important, et ça, on le voit très bien, personne ne peut nier ça, c'est un fait. Alors on dit, comment dépasser ça? Oui, c'est que ce sacrifice s'est fait par amour pour quelqu'un, par un amour divin, surnaturel, mais qui est d'autant plus un amour, parce qu'il est éternel. C'est par amour pour Jésus que je l'ai fait. Et non pas par amour de soi supprimer une charge. Non. C'est un amour positif, capable d'assumer cette privation. Et de faire que cette privation me permet un élan d'amour plus grand. S'il n'y a pas eu ça, et qu'il n'y a eu que l'aspect négatif, votre personnalité humaine aura beaucoup de peine de se nouer. Et comprenons bien que la grâce ne supprime pas la nature. Alors ne disons pas, oh, j'ai fait ça par pur amour de Dieu, ça ira très bien. Pas du tout. Vous avez coupé une branche, est fameuse, cette branche de la paternité et de la maternité. Si vous n'avez pas été conscient en la coupant, il y a une autre qui va pouvoir pousser. Et que cette autre, elle est à la fois humaine et divine. C'est un changement de vie. C'est une orientation nouvelle. Et vous en serez toujours malheureux. parce que la privation n'a pas été assumée. Alors, quand une privation n'est pas assumée, qu'est-ce qui se passe? Il y a perpétuellement des manières de récupérer. On essaie de récupérer par des amitiés. On essaie de récupérer par des œuvres. Je vais avoir un orphelinat, fonder un orphelinat. Ce sont tous mes enfants. Dans une visite canonique à Fribourg, au père général, on a montré un orphelinat. Oui, ça c'est l'orphelinat des pères. Ce sont tous leurs enfants. Le père général l'a regardé et dit, mais qu'est-ce que vous dites? Oui, ce sont tous leurs enfants. Récupération, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre. C'est faux. On ne fait pas une œuvre pour récupérer. Non. Pour glorifier Dieu. Autrement, elle n'est pas divine. Mais c'est le vieux garçon qui ne veut pas être vieux garçon et qui se dévoue. Notre vie apostolique n'est pas faite pour récupérer et faire que le vieux garçon ait de l'occupation. Non, c'est autre chose. C'est différent. Philosophiquement, on voit très bien ça. Et c'est ça qui est important à saisir. L'importance de ce choix. La paternité se noue autour d'un choix. Est une responsabilité. Mais un choix dans l'amour. On a choisi quelqu'un qu'on aimait. Pour épouse. Pour être celle. Avec qui je vivrai et qui coopérera avec moi pour que je puisse être père et qu'elle puisse être mère. Et on sait très bien qu'en étant père et mère, on fait une œuvre commune qui va donner toute une nouvelle orientation à ma vie. Et une orientation à ma vie qui peut finaliser ma vie. C'est ça qui est important. Autrement, il n'y aurait pas de personnalité propre. La personnalité propre se noue autour d'une nouvelle finalité, vraie, authentique. L'amour d'amitié que j'ai pour celle que j'ai choisie, pour faire œuvre commune avec moi, vis-à-vis de la paternité et vis-à-vis de sa maternité. Vous voyez, là, il y a quelque chose de grand au point de vue humain. Et il y a vraiment quelque chose qui fait que la personne humaine prend un caractère spécial. Celui qui fonde une famille, celui qui fonde une communauté humaine radicale et fondamentale, sur laquelle reposera une communauté politique. Si la famille disparaît, la politique humaine disparaît. Mais l'astuce actuelle, il faut bien voir, hein. Faut être plus malin que le démon en étant dans la vérité. Le démon ne dira pas du tout hein, supprimer la famille et l'aspect politique sera supprimé. Mais non, puisque ce sont des hommes politiques qui font ça. Ils ne voient pas qu'en faisant ça, ils se suicident eux-mêmes. Ils se suicident eux-mêmes. Avec un peu de temps. Il faut attendre une génération. Mais au bout d'une génération, ça arrivera. Ils ont mis une bombe à retardement. Et c'est une bombe à retardement qui éclatera fatalement et nécessairement. C'est là où on comprend comment le choix de fonder une famille, choisir son épouse pour fonder une famille et avoir des enfants réciproquement, fonde cette communauté qui est la communauté fondamentale, la famille. Dans cette communauté fondamentale, le père, l'époux, a un rôle tout à fait particulier. C'est ce rôle particulier qui se développe dans sa propre personne de père. Qu'est-ce qu'il y a de propre à la paternité? Ce qu'il y a de propre à la paternité, la ratio paternitatis, la raison de père, c'est d'être premier. Principes. D'être premier. D'être donc responsable par lui-même de son choix qu'il a fait à l'égard de son épouse. Tout commence dans ce choix de son épouse. Et ce choix de son épouse est réciproque. Donc ce sera le choix pour lui d'être père et pour son épouse d'être mère. Et l'un et l'autre de faire œuvre commune dans une famille, communauté humaine. Et là, il y a quelque chose de commun dans la paternité et la maternité. Donc, surtout qu'il n'y a pas de jalousie entre les deux. Ça demande une très grande lucidité. Parce que la passion, il se mêle si facilement, étant donné que cet amour est un amour très incarné. Je ne peux pas choisir comme épouse la femme idéale. La plus belle du monde. Qui a une vraie beauté. Surtout pas. Ce serait la séduction. Et ce ne serait pas un choix amical. Je ne peux pas épouser la femme qui a les seules héritières de son mari, de son père, qui est tellement riche. Vous voyez, hein, les deux caprices de l'amour d'amitié, l'utilité, la jouissance, les deux ne sont pas la véritable amitié. Donc, quand on étudie philosophiquement ce qu'est la véritable amitié, on étudie le fondement même de la paternité. Ce n'est pas extérieur à la paternité. Il ne peut pas y avoir une paternité qui se fonde sur l'aspect utilitaire. Il ne peut pas y avoir de vraie paternité qui se fonde sur l'aspect jouissance, séduction. Ce sont deux amitiés qui sont des amitiés fausses, erronées. Pour que l'amitié soit vraie, c'est qu'on choisit l'ami comme principe, comme personne, dans ce qu'elle a d'unique, dans sa propre personnalité. S'il n'y a pas cette amitié-là, il ne peut pas y avoir un véritable foyer, une véritable communauté. Et il ne pourra pas y avoir une paternité. La paternité, elle naît partir de cet amour réel, profond, amour d'amitié. C'est ça qui reçoit le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage ne vient pas confirmer une amitié de jouissance, une amitié utilitaire. C'est là où il peut y avoir une nullité de mariage, oui. C'est sûr. Et c'est grave. On peut avoir compris que le sacrement regarde une amitié réelle. Peut-être pas parfaite, mais réelle. J'aime l'autre pour elle-même, dans sa propre personnalité. La nullité de mariage, c'est quand il y a erreur sur la personne. On a confondu le compte en banque et la personne. Dans un monde qui se matérialise, ça peut arriver. On a confondu la jouissance momentanée, sensible, peut-être très passionnelle, et la personne qui a été enveloppée de ce point de vue-là. On n'a pas découvert la personne. Donc, la personne du père implique cette personne autour de l'amitié, du choix amical. Le choix amical de l'épouse est la pierre d'angle de l'édification de la communauté familiale. Et donc, elle est la pierre d'angle de la paternité. Je crois ça aujourd'hui capital à être tout le temps rappelé. Parce que s'il y a si peu de foyers vrais, si peu de pères vrais, ça vient de là. C'est qu'il n'y a pas eu ce choix personnel qui permet le développement du reste.